Certains cerveaux s'emballent, certaines émotions débordent et certains corps s'épuisent à tout contenir. Audrey Kalvikowski propose des accompagnements sur mesure pour les hypersensibles, HPI et TDAH, qui veulent s'aligner sans s'abîmer. Sensation, ouverture, intuition, trois étapes clés de sa méthode pour transformer l'intensité émotionnelle et l'ébullition mentale en intuition actionnable. Partage de femmes, c'est une femme et des partages individuels et de groupe, ainsi que des ateliers et des séjours dans les Pyrénées. Parce que nos émotions nous donnent des ailes, retrouvez Audrey sur Instagram, partage de femmes 64.
Envie de doper ton cerveau sans y laisser ta peau?
Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois!
Ben, je me vois.
Ah, tu te vois!
Envie de booster ton quotidien? Tu es au bon endroit! Bienvenue dans DTC, l'émission qui remue tes méninges et stimule tes cellules.
Tu veux que je te dise ce que je vois à moi? Un type fier! Un type fort! Un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds!
Le dimanche à 20h30 sur Pontac Radio, tu dynamises ton passage à l'action.
Tu vois tout ça, toi?
Yeah, man.
Bonsoir à tous, amis Bern et Bernaise, on est de retour dans DTC, l'émission qui te donne des outils pour mieux te comprendre et vivre plus pleinement, entièrement ou sauvagement, on n'a qu'à dire aussi, ou sagement, enfin vous choisissez le qualitatif qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Et avec moi ce soir, c'est Julien.
Fidèle au poste, bonsoir Audrey.
Exactement, fidèle au poste, il appuie sur les boutons. C'est ça, mais c'est toujours un régal de se retrouver. Dans la dernière émission, on a parlé de... ta zone de génie, Julien, non, de la zone de génie de nos auditeurs, mais aussi la mienne, la vôtre, celle de tout le monde. Ce truc un peu magique où le temps s'efface et où tu as l'impression d'être exactement là où tu dois être. Le flow, et rappelez-vous, Patou, rappelle-toi, le flow. Si tu as loupé l'émission, pas de panique, le podcast est là pour toi, il t'attend bien au chaud sur pontacradio.fr. Mais ce soir, on va pousser le bouchon un petit peu plus loin.
Maurice.
Non, j'ai décidé de les appeler Patou, pas Maurice. Parce qu'une fois que tu connais ta zone de génie, ben, qu'est-ce que tu en fais, hein? Tu expérimentes, tu tentes, tu essaies, et là, c'est là que surgit la grande question, est-ce que tu vas réussir? Dis-moi, Patou, c'est quoi la dernière chose que tu as vraiment réussi? Pas selon ta mère, ton père, pas selon ton chef, pas selon les stories Instagram de quelqu'un que tu connais à peine, non, selon toi. Tu vois où je veux en venir ce soir? Ce soir, on va parler comment réussir tout ce que tu expérimentes, et de suite, on va aller dans tes croyances.
Ils ne veulent pas qu'on devienne des héroïnes, ils ne veulent pas qu'on devienne quelqu'un.
Dans DTC, nous, oui. Et c'est en faisant le tour de tes croyances limitantes qu'il est possible de faire tomber les chaînes.
Get back on your life, bordel de shit!
Et la première croyance, c'est en fait finalement de croire qu'il y a une seule et unique réussite. Donc la question à se poser, c'est quoi réussir pour toi? Si ta première réponse, c'est une image, une maison, une famille, un chien ou des poules, un salaire avec un peu de chance, un métier qui te permet d'être heureux, peut-être un titre sur une carte de visite. Bref, t'as pas tort. Mais tu as peut-être hérité aussi d'une définition qui n'est pas vraiment la tienne. J'en parle souvent ici, mais on va aller voir un petit peu en détail, Patou. On est tout de même à la saison 2 de DTC, donc il faut qu'on aille un petit peu pousser le bouchon. Hein. Le sociologue Pierre Bourdieu, l'un des penseurs les plus importants du XXe siècle sur les inégalités sociales et la reproduction culturelle, avait un concept qu'il appelait le capital culturel, justement. L'idée est simple, avant même que tu te poses la question de ce que tu veux, toi, on t'a déjà transmis une réponse. Ta famille, ton école, ton quartier, ils t'ont donné une définition de ce qui compte, de ce qui se fait, de ce qui est bien. Et cette définition, tu la portes parfois, parfois t'en as conscience et parfois t'en as pas conscience, en fait. Et ce qui fait que tu peux courir après une réussite qui n'est peut-être pas la tienne et passer parfois à côté d'une réussite qui t'appartient à toi parce que finalement, tu la reconnais même pas comme telle. C'est ça, la problématique dans un premier temps. Ensuite, on a Carole Dweck, une chercheuse en psychologie à l'université de Stanford qui a passé 40 ans à étudier comment les êtres humains apprennent et progressent. Elle identifie plusieurs façons de définir la réussite selon trois axes. La réussite par le résultat, j'ai gagné, j'ai obtenu, j'ai décroché mon diplôme. C'est clairement la plus visible, la plus fragile aussi, parce qu'elle dépend d'éléments que tu ne contrôles pas majoritairement en tout cas. Elle dépend davantage de l'autre, cette réussite par le résultat. La réussite par le processus. J'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai bien travaillé, j'ai été alignée avec mes valeurs et celle-là, personne ne peut te l'enlever. Donc finalement, la réussite par le processus va être d'autant plus intéressante à observer. Et enfin, la réussite par l'apprentissage. J'ai compris quelque chose que je ne savais pas avant. J'ai donc grandi et c'est la plus solide sur le long terme. L'idéal, c'est la réussite qui englobe ces trois. L'apprentissage, le processus et le résultat. Et la plupart d'entre nous ne connaissaient que la première. Je ne sais pas toi, Julien, mais...
C'est celle qui est la plus simple, entre guillemets, à voir. Hein.
C'est surtout celle dans laquelle on a le plus été conditionné, en fait. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Ta tarte aux pommes est un petit peu brûlée. T'as réussi ou t'as raté ? Si ton critère, c'est la perfection visuelle, c'est raté. Elle est cramée, hein, après tout. Si ton critère, c'est d'avoir cuisiné quelque chose maison pour les gens que tu aimes, c'est réussi. T'es content de toi, t'as posé ta tarte sur la table. Si ton critère, c'est d'avoir appris que ton four chauffe trop fort, c'est aussi réussi. La tarte, c'est la même. Ce qui change, c'est vraiment ton critère, ton indicateur de réussite. J'en parle souvent dans mes accompagnements et tous ceux que j'accompagne, ils le savent. Je suis relou avec ça, mais poser des indicateurs de réussite, c'est se voir plus facilement réussir. Posez-vous la question, à quel type de réussite est-ce que vous tenez vraiment ? On va aller dans ton corps, la peur de réussite.
Dans DTC, on ouvre aussi la porte à ton physique.
La porte à cette idée, mais qui ?
Place à la session dans ton corps sur Pontac Radio. Pontac
Radio. Patou, Julien, il va répondre à ta place. Est-ce que tu as déjà eu la trouille, avant d'avoir ce que tu voulais vraiment ?
Ah oui, bien sûr.
C'est un paradoxe très bizarre, hein, parce que tu veux une chose et tu fais tout pour ne pas y arriver.
Inconsciemment, même souvent.
Oui, et c'est de la folie et pourtant, c'est avant tout de la biologie. Oui. C'est de la biologie. Les chercheuses Pauline Clance et Suzanne Imes, deux psychologues américaines qui ont étudié le phénomène en 1978 sur plus de 150 professionnels à haute performance, ont nommé ça le syndrome de l'imposteur. On a fait toute une émission entière sur le sujet, donc je vous renvoie vers les podcasts de l'émission. L'idée, c'est que même quand tu réussis, une partie de toi est persuadée que c'est un accident, que ça va se voir, que quelqu'un va venir frapper à la porte et dire « Tac, 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 pardon, il y a une erreur sur la personne, moi je suis pas ceci, moi je suis pas cela, bla, 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 ton mental. » Et ce syndrome-là, il a une signature physique très, très précise, c'est-à-dire que tu as le ventre qui va se serrer, la gorge qui se noue, une chaleur au visage, une envie inexplicable de tout annuler au dernier moment, de tomber malade le jour J, par exemple, ou d'oublier d'envoyer le dossier. En vrai, si tu n'as pas tous ces symptômes-là, ça ne veut pas dire que tu ne ressens pas le syndrome de l'imposteur. Ça peut vouloir dire d'autres choses. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et en bref, c'est ton système nerveux qui confond la nouveauté et le danger. Et ça n'a rien à voir avec la volonté ou la motivation ou que sais-je. Le neuroscientifique Joseph Ledoux, spécialiste de l'amygdale et des mécanismes émotionnels à l'Université de New York, dont les travaux font référence dans le champ des neurosciences de la peur, a montré que notre cerveau traite le changement, même positif, comme une menace potentielle. En gros, réussir, c'est changer. Et changer pour ton système nerveux, c'est inconnu. Et on le répète hyper souvent ici, l'inconnu...
C'est le danger.
Et oui, ça ressemble à le danger. Oui. Ça ressemble au tigre. Moi, je l'appelle le tigre. Voilà. À chaque fois, je dis, mais c'est comme si tu avais vu un tigre et que tu devais partir en courant. Et il y a aussi quelque chose de plus profond. Réussir, c'est souvent devenir quelqu'un d'autre. Une nouvelle version de soi, une nouvelle version dans le sens ton corps ne la connaît pas encore, elle n'a pas d'image, d'histoire, de repère ou encore d'ancrage et donc elle fait peur cette image. Voilà, ça c'est un petit peu la problématique et c'est la peur de réussir, elle est beaucoup plus fréquente que la peur d'échouer finalement maintenant. Échouer c'est vraiment et si ça marchait pas, réussir c'est et si ça marche, qu'est-ce qui va se passer ? On va aller dans ton cœur, aimer, expérimenter.
L'aventure continue.
Je n'ouïe plus,
à la tête.
DTC, l'émission qui te permet d'écouter ce qui se passe dans ton cœur. En exclusivité sur Pontac Radio.
expérimenter, c'est un grand mot pour dire essayer des trucs dont on ne connaît pas l'issue, et ça peut être la partie la plus difficile de toute l'aventure. Christine Neff, chercheuse en psychologie à l'Université du Texas, pionnière dans les études de l'autocompassion, c'est quelque chose aussi dont on parle souvent ici. Depuis les années 2000, ses travaux sont aujourd'hui enseignés dans les programmes de psychologie clinique du monde entier. Elle a montré quelque chose de contre-intuitif. Les personnes qui s'accordent le droit d'expérimenter sans se juger durablement en cas d'échec persévèrent significativement plus longtemps que les autres. En gros, plus vous autorisez à expérimenter, plus vous persévérez et dans le temps, en fait. Et bien sûr que le résultat de ces personnes, elles sont intéressées par le résultat. Bien sûr qu'on veut le résultat quand on fait une action. Mais elles persévèrent surtout parce qu'elles ne font pas de l'échec une preuve de leur valeur. Autrement dit, elles n'ont pas accroché leur erreur ou leur raté, en gros la tarte brûlée, à leur valeur. C'est pas parce que ta tarte elle est cramée, pas tout.
Que je vaux rien.
Que tu vaux rien, exactement. Mais bon.
Plus jamais cuisiner de ma vie.
C'est ça. Et s'il suffisait de le dire pour que ça change, ça se saurait. Hein. Je pense qu'on aurait beaucoup moins de syndrome de l'imposteur. Plus tu es dur avec toi-même quand ça rate, et moins tu as envie de réessayer. Et moins tu réessayes, moins tu réussis. C'est un cercle vicieux que la sévérité, l'éducation par la peur, l'autorité aussi abusive et la punition entretient ce cercle vicieux. Et puis il y a la question du regard des autres. Et si vous voulez, quand on identifie les croyances profondes qui pilotent nos comportements, en fait on vient décrire un pattern qui s'appelle le schéma d'échec anticipé. La peur d'être jugé si tu rates est tellement forte que tu n'essaies même pas pour ne pas avoir à te retrouver face à ce regard-là, face au regard des autres qui te voient échouer. Alors, du coup, je vous propose un indicateur d'observation. Après quelle conversation as-tu envie d'essayer des trucs nouveaux ? Et après quelle conversation est-ce que tu ranges tout et tu n'oses plus rien du tout ? Et ces deux listes te disent qui, dans ton entourage, nourrit ton envie d'expérimenter et qui peut éventuellement l'étouffer. Alors attention, hein, il ne s'agit pas de rejeter les personnes qui ne te donnent pas envie d'expérimenter, mais davantage de mettre de la conscience que le fait que c'est peut-être toi dans cette relation qui sert de locomotive. Entoure-toi plutôt de personnes qui sont des TGV pour expérimenter et reste la locomotive de ceux qui en ont besoin. Seul on avance, à plusieurs on va plus loin. Je ne peux quand même pas faire l'apologie ici de la solitude quand même. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de poursuivre l'expérimentation. On va aller dans ton quotidien, est-ce que vraiment il est possible de tout réussir ?
Ils ont reçu un appel. D'après eux, il y a des problèmes chez nous.
Parfois, les autres te feront croire que tes choix ne sont pas les bons.
Tout va bien, ils ont simplement pas l'habitude de voir des gens aussi beaux que nous.
Dans ton quotidien,
tu vas franchir une nouvelle étape. C'est pas seulement toi que tu vas représenter.
Non, c'est tous ceux qui, comme toi, vont
changer le monde.
Tu vas leur montrer ce que t'as dans le ventre ?
Soyons honnêtes, Patou. Est-ce que c'est vraiment possible de tout réussir, selon toi, Julien ?
Évidemment que non.
Ben non, après tout ce que je viens de dire, effectivement, c'est une excellente nouvelle d'ailleurs qu'on ne puisse pas tout réussir. Un psychologue israélo-américain, si je le dis bien, et prix Nobel d'économie en 2002, Daniel Kahneman, dont les travaux sur la prise de décision et les biais cognitifs, on en a fait aussi une émission, donc je vous renvoie sur l'émission des biais cognitifs, ont révolutionné notre compréhension du cerveau humain et il a documenté ça s'appelle la charge cognitive. C'est quelque chose dont je vous ai déjà aussi parlé ici. L'idée est simple, c'est que ton attention est une ressource limitée. Alors je répète, parce que ça c'est hyper important dans notre société aujourd'hui où en gros il y a une machine commerciale qui fait tout pour attirer ton attention, donc c'est hyper important. Ton attention est une ressource limitée, c'est-à-dire qu'on a un temps d'attention durant la journée, un capital attentionnel en fait qu'on va bouffer si vous voulez. Donc plus vous laissez votre attention aller à droite à gauche, plus vous vous éloignez finalement de la possibilité de réussir aussi. Donc mettre de l'attention là-dessus, c'est important. J'en perds la mienne d'attention du coup. Un exemple, c'est comme la batterie de ton téléphone. Si tu lances toutes les applis en même temps, la batterie Elles font, et toutes les applications fonctionnent mal. Vouloir tout réussir en même temps, c'est garantir des performances plutôt médiocres partout, même si pour certains profils neuroatypiques ça peut être une solution, mais c'est pas le sujet ici. C'est tout simplement humain d'avoir de moins bons résultats. Il y a aussi la loi de Pareto, un économiste italien du 19e siècle. On en avait aussi parlé sur justement la productivité. C'est 20% des causes produisent 80% des effets. Si on applique ça à la vie de tous les jours, c'est 20% de tes actions qui produisent 80% de tes vrais résultats. Le reste, c'est de l'agitation, voire de l'occupation. Et on est bien plus occupé que productif. Pourquoi c'est important d'être productif ? Ben parce que ça libère du temps aussi hein, pour faire ce qu'on veut, d'après tout. On n'est pas toujours obligé d'être productif, mais on peut profiter plus facilement. Alors, tout réussir, ça ne veut pas dire tout le temps, à fond et sans échec, ça veut dire tout ce qui est aligné avec ce que toi tu considères essentiel à ce moment précis de ta vie. Un exemple, t'arrives pas à réussir ta vie pro et ta vie perso en même temps et à fond les ballons. Cette fameuse croyance de il faut profiter. Le profit, il n'y a pas toujours profit. Ah, c'est juste être. Personne n'y arrive et ceux qui prétendent le contraire, ben, regarde de plus près, pas tout vraiment. Il y a toujours quelque chose qui prend l'eau quelque part. Alors même si dans le Béarn, prendre l'eau, c'est de bon augure, hein, c'est pas toujours tout rose. La vraie question, c'est pas comment je réussis tout, mais plutôt, même si c'est dingo, qu'est-ce que je me mets en priorité cette semaine, ce mois, cette saison dans ma vie ? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi ? Et ça commence par décider. Et je vais aller, pas dans ton cul, mais on va faire un petit bottage de cul, les 7 clés de ta réussite en détail, c'est de suite.
Tu en as plein le cul ? Besoin d'une pause pour y voir plus clair ? Dans DTC, on pose ensemble nos derrières pour assurer nos arrières. Et c'est OK. DTC, c'est aussi dans ton cul.
Dans ton cul.
Et c'est en exclusivité sur Pontac Radio.
L'idée de ce passage, c'est de te donner quelques outils pour réussir finalement. Donc, j'ai choisi de t'offrir une formule qui me tient vraiment à cœur parce qu'elle est simple, et elle est réaliste, elle est complète et même qu'avec elle, j'ai de vrais résultats chez les personnes que j'accompagne. C'est quelque chose que j'applique aussi pour moi. Donc, décider plus croire plus savoir plus pouvoir plus vouloir, plus aimer, plus agir, égale résultat. 7. Les 7 merveilles, les 7 ingrédients, les 7 merveilles de ton monde intérieur. Voilà. Alors, on va les reprendre un par un. Décider. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois décider ce que tu appelles réussir, ce que tu détermineras comme réussite. Ça, c'est les déterminants de la réussite. Il faut décider, faire la part des choses entre la définition héritée de ta famille qui représente le standard de ton environnement et la tienne de définition. Et bien évidemment, après, on va voir ce que c'est réussir au sens large. Et puis après, l'idée, c'est de spécifier. Par exemple, réussir à créer l'émission d'aujourd'hui, c'est une réussite. Il n'y a pas de petite réussite. Hein. Moi, post-cancer, mettre une machine en route toutes les semaines, c'était une réussite. C'était déjà quelque chose que je considérais être une réussite. Pierre Bourdieu nous a rappelé que nous sommes tous porteurs d'une définition culturelle de la réussite. Et la liberté, c'est en prendre conscience et choisir la sienne. Question du coup à se poser, c'est si personne ne le saurait jamais, qu'est-ce que je considérerais comme ma réussite personnelle ? En gros, s'il n'y avait plus personne, est-ce que tu estimerais avoir réussi ? Le deuxième, c'est croire. Donc, je vous parlais de Carol Dweck, je ne vais pas revenir sur ce qu'elle faisait, mais elle nous dit que comprendre l'apprentissage et la motivation, ça montre que la croyance que tes capacités sont développables change littéralement tes résultats. Donc, plus tu vas comprendre ce que tu apprends, plus tu vas croire que tes capacités peuvent évoluer. Et du coup, par ricochet, avoir plus de résultats. On appelle ça le « grow mindset ». Ils adorent parler de ça dans tout ce qui est commerce, etc. C'est l'état d'esprit de croissance. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous renvoie vers le podcast qui est entièrement consacré sur la réussite. L'idée, c'est de ne pas confondre avec l'optimisme naïf. C'est une posture qui s'entraîne, c'est un processus actif, le grow mindset. Si tu te dis « je suis nul », Par exemple, pour parler au micro, hein, je bafouille souvent, vous avez déjà vu passer sur les réseaux, d'ailleurs, mettez un petit pouce, un petit like, tu viens de te fermer une porte en fait. Si je me dis je suis nulle quand je prends le micro, je me ferme une porte. Si je me dis je suis pas encore bon pour parler sans bafouiller, sans faire des voilà, ben, je laisse la porte ouverte et je vais progresser bien évidemment. Le savoir, l'échec n'est pas un verdict, c'est une donnée. C'est-à-dire que quand on commence à comprendre et à utiliser l'échec comme une nouvelle donnée, ben on peut être qu'en éternelle réussite. Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas, nous disait Thomas Edison. Samuel Beckett, écrivain, il disait « rate encore, rate mieux ». Chaque tentative produit de l'information et l'information c'est du savoir et le savoir ça se construit dans l'expérimentation et non dans l'attente du moment parfait ou du résultat parfait. Ensuite on a le pouvoir. Ton environnement humain a un impact réel sur tes résultats. Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui revient beaucoup, ça, de s'entourer pour aller vers la réussite, donc de créer déjà les conditions environnementales propices à ta réussite. Jim Rohn, qui est un entrepreneur et philosophe américain, disait « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus ». Donc, en gros, si vous voulez réussir dans une nouvelle sphère, dans quelque chose d'inconnu, entourez-vous de personnes qui le font déjà. Ça va vous permettre de réussir plus facilement, en fait.
De monter en compétences.
Exactement. Moi, je suis pas trop d'accord avec le fait qu'on soit la moyenne des personnes, mais en gros, je le vois plus dans le sens actif. Voilà, dans le sens, ça peut vous être utile pour construire un environnement propice. Donc, t'entourer de personnes qui croient en ta capacité à réussir, c'est pas optionnel, c'est une stratégie. Et si ce mot va te créer de l'irritation, décider de se réconcilier avec cette part de toi, c'est apaiser la colère, parce que oui, l'irritation, c'est de la colère, et donc une part de toi qui demande à être écoutée et comprise. Vouloir. Angela Duckworth, qui est une chercheuse aussi en psychologie, qui a fait d'ailleurs une vidéo TED Talk. Je ne sais pas si tu connais l'émission, les conférences de TED Talk. Non.
Moi non, peut-être parmi nos auditeurs.
Oui, donc c'est sur YouTube, vous marquez TED, il y a des millions de sujets sur tout, et voilà, d'experts qui parlent, et c'est des vidéos qui sont énormément regardées dans le monde entier. Elle a conceptualisé ce qu'elle appelle le grit, c'est la persévérance intelligente, et la différence entre persévérer et s'entêter. Alors la persévérance ajuste le chemin là où l'entêtement enfonce le même clou dans le même mur. Autant vous dire qu'il vaut mieux persévérer que s'entêter. Donc vouloir réussir, c'est vouloir avec souplesse d'esprit et adaptation. Vouloir, c'est piloter son ego par l'intention pour augmenter son niveau de fréquence. C'est pas tout à fait la même chose que de vouloir dans le sens... s'entêter dans « je veux réussir » là où finalement c'est plus « prends la donnée de l'échec et vois comment tu peux améliorer le process ». Aimer, donc chaque petite victoire mérite d'être célébrée et malheureusement je constate que c'est pas vraiment le cas, que c'est encore mal vu ou mal interprété, alors que ça répond à un besoin neurologique, d'accord ? Chaque célébration consciente active ce qu'on appelle la boucle dopaminergique, je vais le dire, mal à chaque fois, vous pouvez y aller. Ton cerveau associe donc l'action à du plaisir et il voudra recommencer. Donc aimer le chemin de réalisation, vraiment ça c'est prendre le temps de se célébrer. Et enfin la dernière c'est agir. Agir, l'action imparfaite produit plus de résultats que la perfection attendue. Je répète, l'action imparfaite produit plus de résultats que la perfection attendue. En gros, vaut mieux fait que parfait. Le perfectionnisme, c'est l'ennemi de la réussite. Pas vraiment parce que la qualité ne compte pas, mais parce que le perfectionnisme attend des conditions qui n'arrivent jamais. En gros, quand vous êtes dans le perfectionnisme, vous attendez que toutes les conditions soient réunies, que tout soit nickel chrome ou bien fait, ce qui n'est pas forcément en adéquation avec la qualité. C'est-à-dire qu'on peut avoir la qualité sans avoir quelque chose de parfait. Tout autant, on pourrait dire que la perfection existe. Donc, agir imparfaitement, c'est déjà être en mouvement, et le mouvement, ça génère du mouvement. Donc, en gros, décider, croire, savoir, pouvoir, vouloir, aimer, agir, égale un résultat. Je t'invite à prendre cette formule, à la coller quelque part où tu la verras. Et puis, dès que quelque chose coince dans un projet, demande-toi lequel de ces 7 merveilles de ton monde intérieur est manquant dans ta boucle de réussite? Il y a forcément une qui coince quelque part pour quand ça ne réussit pas. Si tous ces mots-clés sont alignés, il n'y a pas de raison de ne pas avoir le résultat. Il y a des fois aussi des personnes qui ne se voient pas réussir. Donc,
résulter.
Ouais, regarder la réussite, c'est pas toujours évident, en fait. Parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que ça remet en question ton identité. Donc, j'ai prévu quelques questions-réponses à partir de données personnelles. Et je vous propose ça dans la prochaine partie d'émission. On y va.
Les dormeurs réalisent jamais leurs rêves.
C'est la séquence où on répond à toutes vos questions.
Tu crois que je peux le faire? Que j'y arriverai?
Ensemble, explorons les possibles dans DTC sur Pontac Radio.
Alors pour la petite histoire, moi j'adore collecter les données. J'ai une collection personnelle à l'intérieur de moi, des questions qui m'ont touchée au fil des années de coaching que j'ai pu réaliser. Et ce soir, je vais partager avec vous des réponses. C'est hyper généraliste, mais bon, c'était une volonté. Une des questions qui revient souvent par rapport à la réussite, c'est je rate toujours quand c'est important pour moi. Comment faire pour ne plus m'auto-saboter? Donc quand on commence à parler d'auto-sabotage, et qu'on a quand même déjà une connaissance, un minimum de ce que c'est. C'est une question, moi, que je trouve particulièrement magnifique parce qu'elle montre une vraie conscience de soi. Donc, quand vous parlez d'auto-sabotage, quand vous avez ce recul-là déjà sur votre réussite, c'est que vous êtes quand même déjà conscient de beaucoup de choses. L'auto-sabotage, c'est vraiment un moment crucial. C'est presque toujours une réponse du système nerveux à monter. En fait, ça monte trop rapidement dans... Vous allez trop vite, en fait. Le système nerveux a besoin d'être rassuré au fur et à mesure des avancées. Donc, l'idée, c'est que vous associez des grandes occasions à une pression insupportable, d'habitude, et du coup, il va préférer provoquer l'échec lui-même plutôt que de le subir passivement. Donc, une des clés pour pouvoir transformer ça, je vais y arriver... c'est de s'entraîner à reproduire des conditions, mais progressives. Je vais donner un exemple personnel parce que moi, je travaille ma relation à l'argent. Et donc, j'augmente progressivement ma capacité à recevoir certaines sommes d'argent parce que échanger un service contre un salaire, j'étais habituée à une espèce de plafond. Mon système nerveux est habitué à certains chiffres, en fait. Certaines personnes... pour qui dépenser 100 euros pour quelque chose, ça va pas leur paraître beaucoup, leur système de valeur, 100 euros, voilà. Et il y en a pour qui, ça va être, oh là là, ils ont l'impression de faire l'achat du siècle. Donc ça, c'est parce qu'il y a besoin d'augmenter sa sécurité, de sécuriser le système nerveux au fur et à mesure. Deuxième question, est-ce que réussir, ça s'apprend ou est-ce que c'est une question de capital personnel? Bon, on en a parlé un petit peu plus haut, mais oui, ça s'apprend, sans aucun doute. Personne ne naît en réussissant, quoique naître devrait être considéré comme une réussite. On naît avec des prédispositions, ça c'est vrai, effectivement, en fonction du contexte dans lequel on grandit et on évolue. Mais les comportements, les croyances, les stratégies qui mènent à notre réussite, tout ça, ça s'acquiert. Et bonne nouvelle, ça peut être vu autrement. Le seul truc inné dans la réussite, c'est vraiment la curiosité. Et normalement, si vous écoutez cette émission, c'est que vous êtes vraiment curieux. Une dernière, j'ai peur que si je réussis vraiment, les gens autour de moi changent leur regard sur moi. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est l'une des peurs les plus honnêtes qui soit et c'est aussi la plus fréquente. Réussir change bien évidemment une part de notre identité, mais pas vraiment de nos valeurs. Et parfois, ça change l'équilibre de nos relations. Certaines personnes ne savent pas vraiment comment se comporter avec une version de nous qui a grandi, qui a expansé. C'est pas une raison de ne pas oser expanser. C'est une invitation à identifier qui, dans notre entourage, se réjouit de cette évolution, mais aussi celles qui souhaiteront évoluer avec toi et du coup cultiver ces relations dans le sens aussi de tes valeurs et de tes envies. Et c'est aussi des fois des signaux, hein, de se dire, là, je continue à avancer un peu plus loin, puis basta, quoi. Voilà mon petit patou, on arrive au bout de cette émission. J'aime bien la petite phrase de Nelson Mandela pour finir, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Conserve-la quelque part parce qu'elle vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans 15 jours, on sera sur comment accepter l'inconfort comme terrain de magie, parce que réussir passe toujours par un endroit qu'on n'a pas encore visité, et je t'expliquerai tout dans 15 jours, on verra comment la magie opère. Moi, je vous remercie d'avoir écouté DTC. Prends soin de toi, Patou, et surtout, n'y laisse pas ta peau. Adi chat.
Prêt à attaquer la semaine du bon pied?
Ce qui compte, c'est pas ce que je vois. L'important, c'est ce que tu vois, toi. Alors regarde dans ce miroir et dis-moi encore ce que toi, tu vois.
Tu en veux encore? DTC sera bientôt de retour pour booster ton énergie et continuer d'avancer.
Je vois un type
fort, 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 qui peut être très méchant quand il a la haine et qui accepte pas.
On lui marche sous la pièce.
En attendant, pour réécouter l'émission, direction le podcast sur pontacradio.fr. Vous écoutez Pontac Radio. Il est 21h. Jamais une radio ne vous a offert autant.